Radio Kapi.
Oh, Kapi. Belinda Bosuma pour le journal. Controverse autour de la composition du gouvernement souminois. Alors que le président de l'Assemblée nationale annonce son investiture, certains députés, eux, signent une pétition pour bloquer l'investiture, motif la non-représentation du Maniema au gouvernement. Fin hier de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP dans toute la RDC. Bilan positif de façon générale. Cependant, certains élèves de Maluku à Kinshasa n'ont pu passer l'examen en cause l'insécurité due au phénomène Mobondo. Non loin de leur milieu, signale l'inspecteur principal provincial Kinshasa Plateau. Et puis, il faut renforcer l'autorité de l'État dans les zones occupées par les groupes armés pour la mise en œuvre du PDDRCS. C'est le vœu des acteurs sociopolitiques, notables et chefs coutumiers de l'Ituri, vœu exprimé dans un atelier tenu récemment à Bunia. Pour en parler, nous recevons Steve Senghida, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de l'Ituri. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de l'Assemblée nationale rassure l'opinion de l'investiture prochaine du gouvernement souminois d'ici le 11 juin. Vital Kamerhe l'a déclaré lundi après l'audience que lui a accordée le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Audience au cours de laquelle les deux personnalités ont échangé sur la marche des institutions du pays. D'après le président de la Chambre basse du Parlement, la question de représentativité de la province du Maniema dans l'équipe souminois a été également abordée, faisant foi aux assurances du président de la République. Vital Kamerhe annonce la reprise du Maniema au sein du gouvernement. Cependant, cette assurance intervient au moment où certains députés signent une pétition visant à bloquer l'investiture du gouvernement. Michel Kifindangoy nous en parle.
Parmi les points qui suscitent le désaccord de certains députés sur la composition du gouvernement souminois de 54 membres, il y a principalement la violation du principe constitutionnel de représentativité nationale tel que garanti par l'article 90 de la Constitution. La non-représentation du Maniema est donc l'un des principaux points de critique adressés à l'équipe souminois, ce qui a même conduit à l'initiative d'une pétition contre l'investiture du gouvernement lancée depuis jeudi dernier à 18h, cette pétition a déjà réuni plus de 100 signatures. Les pétitionnaires fustigent aussi la violation de principes de présentation des candidats. Pour eux, certains ministres ont été désignés sans l'accord préalable de leur regroupement politique. Le non-respect du principe voulant qu'un groupe de 10 députés soit attribué un ministère, conformément à l'entente avec l'informateur, est aussi l'un des points de désaccord. Le fait que certains regroupements ayant plus de 10 députés n'ont aucun poste ministériel crée la tension au sein de l'Assemblée nationale. À toutes ces revendications, il faut ajouter des accusations d'improbité morale et professionnelle formulées à l'encontre de certains membres du gouvernement souminois. En dépit de toutes ces critiques, d'autres députés comme Willy Michiki tiennent mordicus à l'investiture de ce gouvernement le plus vite possible.
Par ailleurs, il s'est tenu la première réunion du gouvernement souminois hier à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. La première ministre a réuni autour d'elle toute son équipe pour une prise de contact et en vue de préparer son investiture prochaine. L'équipe de Judith Souminois est attendue à l'Assemblée nationale dans un bref délai pour présenter son programme et solliciter la confiance des élus du peuple avant d'entrer en fonction. Il nous revient du cabinet de la première ministre que son gouvernement voudrait par cette réunion mettre la dernière touche sur son programme et établir les liens entre membres du gouvernement avant le grand oral de l'Assemblée nationale. Écoutez à ce sujet le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eu à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ses programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais.
L'actualité, c'est aussi la clôture hier de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP, soit 2 jours d'épreuve. De façon générale, le bilan est positif. Tout s'est déroulé dans le calme dans la ville de Kinshasa. C'est ce qu'affirme l'inspecteur provincial de Kinshasa Plateau, point focal pour ces épreuves dans la capitale. Toutefois, certains élèves des sites Maluku 2, 3 et 4 n'ont pas pu passer ce test. Leurs parents craignaient pour leur sécurité à cause du phénomène Mobondo qui sévit non loin de là. Explication de l'inspecteur provincial de Kinshasa Plateau, Bekelenge Benkema, joint par Étienne Lissumbu.
Le bilan est très très positif. Tous les directeurs provinciaux de Kinshasa ne font que pérenniser la gratuité prônée par le chef de l'État positivement. Tous les centres ont fonctionné convenablement, à part chez nous à la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, où il se pose de sérieux problèmes pour 3 pôles, Maluku 3, Maluku 2 et Maluku 4 par rapport à cette histoire de Mobondo. Les résultats sont prévus avant la clôture de l'année scolaire.
Comment cela va se passer pour un élève qui réussit à l'école et échoue à l'ENAFEP?
L'élève a étudié pendant toute une année scolaire. Cet élève a eu par exemple 48%. Il présente l'ENAFEP. Il obtient 62%. Qu'est-ce qui va se présenter? On prend la moyenne de l'école, 50%, et la moyenne de l'ENAFEP, 50%. On fait la sommation et on obtient les résultats de l'enfant.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, au nord Kivu, au moins 4000 ménages de déplacés cohabitent avec des élèves dans plusieurs écoles de la commune rurale d'Oicha. Nous sommes à 30 km de Beniville. Ils ont fui depuis 3 mois les attaques des EDF dans plusieurs localités et villages de la région de Beni. La société civile locale plaide pour la construction des abris d'urgence pour ces déplacés. Marc Marofimbo, reportage.
Ici, nous sommes dans la cour de la cité Mabalako où plusieurs déplacés attendent la fin des cours pour réoccuper les salles de classe. C'est la même situation depuis 3 mois dans les écoles primaires de Masosi, Mwangaza et Adrunga, ainsi que les écoles secondaires de Mabalako, Mukaira et Kikongo. Ces déplacés, estimés à 4059 ménages, ont fui l'insécurité dans les localités de Mandumbi, Kudukudu, Pasala, Kazaroho, Ilange, Ubende, Kainama et Beumanyama. Ils manquent de tout et sont contraints de partager les salles de classe avec les élèves. Une situation qui inquiète la société civile d'Oicha. Son vice-président Philippe Bonne année, appelle à leur assistance.
C'est pour cela que nous sommes en train de demander aux autorités politico-administratives et aux ONG aussi de voir comment ils peuvent aider cette population. Mais ce qui est très important, c'est voir comment stabiliser les milliers de provenance de ces déplacés parce qu'eux ne vont pas accepter vivre ici sans aller là-bas. Raison pour laquelle vous allez attendre encore peu de jours ceux-là qui se sont déplacés vers ici, mais ils jugent bon d'aller encore mourir dans la brousse parce que ils ont besoin de chercher quoi mettre sous la dame.
Signalons que de nombreux autres déplacés vivent dans des familles d'accueil. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Par ailleurs, 3 bombes larguées par les rebelles du M23 appuyées par le Rwanda sont tombées hier après-midi à Kanyabayonga et 3 autres à Muola dans le territoire de Lubero. Nous sommes toujours au nord Kivu. Selon des sources sécuritaires, les bombes lancées à Kanyabayonga sont tombées à quelques mètres de la base de la MONUSCO et d'une position des FARDC. Un civil aurait été blessé. Les mêmes sources accusent les rebelles du M23 de vouloir créer la panique dans la zone après avoir échoué dans leur tentative d'avancer vers Kanyabayonga. Rappelons que les FARDC et le M23 se battent depuis plus d'une semaine pour le contrôle de cette commune rurale. Jusqu'à hier après-midi, les combats se poursuivaient. Radio Kapi débute une série de reportages sur la ville de Kindu. Depuis plusieurs mois, voyager dans les provinces de la RDC est un véritable chemin de la croix à cause du nombre réduit d'avions. Si le vol est annulé souvent sans que la raison ne vous soit donnée, vous voyagerez plusieurs heures après l'heure prévue. Ainsi, voyager pour la ville de Kindu dans la province du Maniema en provenance de Kinshasa, par exemple, n'échappe à cette règle. Alain Rungushinge l'a expérimenté. Voici son reportage.
Notre voyage était préalablement prévu pour jeudi 16 mai à destination de Kindu. Nous arrivons à l'aéroport de Ndjili à 5h30 pour le check-in, le vol étant programmé pour 8h. À notre grand désarroi, le chef d'escale de la compagnie aérienne que nous devrions prendre nous annonce sans s'excuser que le vol est annulé, sans nous en donner non plus la raison. Toutefois, il annonce que le vol est reporté à lundi. Désemparés et en colère, nous quittons l'aéroport de Ndjili, la mort dans l'âme. Le jour indiqué, le vol n'a pas lieu non plus. Et c'est finalement une semaine plus tard, soit jeudi 23 mai, que nous avons relié Kinlu. Un compagnon de voyage indigné raconte.
Avec nos compagnies qui sont devenues désertes peut-être. Par exemple, pour nous, les cas, on a souffert pour venir à Kinlu. On arrive, les gens de la compagnie, qui nous diront que non, il n'y a pas de possibilité pour que l'avion quitte, par exemple, d'un tel lieu, arriver et puis repartir encore, parce que l'avion est fatigué.
Le vol que nous prenons le 23 mai quitte Kinshasa à 12h50 à destination de Kinlu, soit près de 5 heures après l'heure prévue. Ce genre de situations sont devenues si récurrentes à travers le pays que les pauvres passagers impuissants, ne sachant à quel sein se vouer, finissent par s'y accommoder. De retour de Kinlu, Alain Irung Mouchige, Radio Okapi.
Pendant ce temps, les choses se précisent pour le projet de construction d'une ligne de train urbain dans Kinshasa, baptisée Metrokin. Le groupe français Alstom, géant mondial dans la construction des infrastructures ferroviaires, signe un protocole d'accord dans le cadre du projet de train urbain sur une étendue globale de 300 km dans Kinshasa. Cet accord est conclu avec le groupe Africa Finance Corp, AFC en sigle, partenaire financier des autorités congolaises pour la matérialisation de ce projet. L'annonce a été rendue publique mardi par AFC. Explication Cynthia Bachizina Bizana.
Ce MOU intervient après la visite du président Tshisekedi en France en avril dernier. C'est alors qu'un accord avait été signé entre le groupe AFC et Transconnexion Congo, société chargée de réaliser les études techniques financières et de rechercher les financements du projet Metrokin. Il s'agit de développer un système de transport sur rail en quatre phases dans Kinshasa. La première consiste à construire un tronçon de 25 km entre la gare centrale de Kinshasa et l'aéroport international de Ndjili. C'est donc une modernisation complète du chemin de fer existant. Avec l'arrivée d'Alstom, le projet franchit ainsi une étape importante à un moment crucial où les conceptions techniques détaillées sont en cours de finalisation. Alstom agira en tant que partenaire industriel stratégique en s'appuyant sur son expérience de fournisseur de trains de banlieue pour l'Afrique du Sud, le Sénégal et sur son travail dans le cadre du projet de métro d'Abidjan, la capitale ivoirienne. En attendant tout le bouclage financier, AFC s'engage à réaliser un investissement initial de 3 millions de dollars américains pour faire avancer la phase de développement qui doit s'achever en 2024. Pour l'heure, aucune information sur le début effectif des travaux n'a été communiquée.
Du côté du Sud Kivu, le sable redevient exploitable, transportable et commerçable dans le territoire insulaire d'Idjui. L'administrateur du territoire en a décidé ainsi après 2 semaines de suspension momentanée. La décision résulte du dialogue engagé entre les autorités et les exploitants artisanaux du sable. Plus de détails avec Jean Kassami.
À l'issue du dialogue, les parties prenantes à l'exploitation, au transport et à la commercialisation du sable sur toute l'étendue du territoire d'Idjui sont tombées d'accord sur un certain nombre de points. Les conseils de sécurité du territoire insulaire accordent aux opérateurs du secteur des sables un délai de 60 jours afin de se conformer aux normes de paiement des taxes et autres redevances dues au trésor public. Les sites impropres à l'exploitation sont identifiés. Les chefs de bureaux territoriaux du SAMAP, des mines, du cadastre agricole, mais aussi les superviseurs de l'environnement conviennent de s'impliquer au travail chacun en ce qui les concerne. L'administrateur Didjoui Mamboleo Mustapha espère que toutes ces mesures vont permettre aux administrés de tirer les dividendes dans la production du sable extrait dans leur entité. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis, c'est déjà la saison sèche à Kinshasa et dans certaines provinces voisines, une période caractérisée par des faibles précipitations et des températures basses. Il est donc crucial de prendre certaines précautions pour la vivre dans des meilleures conditions. Docteur Victor Matondo de l'hôpital de l'Armée du Salut, dans la commune de Kinshasa, ici dans la capitale, parle des certaines maladies récurrentes en cette période. Il donne aussi quelques conseils pour bien passer sa saison sèche. Il est avec Miradim Fouengi.
Nous pouvons avoir des maladies, surtout des voies respiratoires. Le rhume, la toux aussi, des pneumonies. Il y a une accentuation de certaines maladies, par exemple l'asthme, la bronchite. Et nous avons aussi la conjonctivite. La précaution que notre population doit prendre, c'est notre corps a son horloge. Il faudra dormir un peu plus tôt pour influencer cette horloge. Nous devons manger des fruits, éviter les aliments froids. L'eau froide, éviter un milieu où il y a trop de la poussière, porter les habits un peu lourds. Et surtout pour les enfants, les personnes de troisième âge, les personnes souffrant de rhumatisme ou les asthmatiques, donc toutes les personnes vulnérables qui sont susceptibles d'attraper ces infections facilement, de prendre même un bain chaud. Les mesures barrières aussi sont importantes. Par exemple, le port du masque, toujours nettoyer nos mains pour la prise en charge. Quand vous avez la fièvre, surtout que ce sont des maladies qui viennent avec la fièvre, c'est peut-être prendre le paracétamol, prendre un thé chaud, et puis aller voir le médecin.
Actualité internationale. Des milliards de dollars d'aide et de soutien pour l'investissement en Afrique, c'est la promesse formulée hier par le président de la Corée du Sud. En effet, son pays accueille au moins 48 délégations du continent africain dans le cadre du premier sommet Corée du Sud-Afrique. Séoul entend ainsi renforcer sa coopération avec l'Afrique, notamment dans les domaines des minéraux et des technologies. Le climat figure aussi dans son agenda.
L'invité.
Les acteurs sociopolitiques, notables et chefs coutumiers de l'Ituri recommandent à l'État congolais de renforcer son autorité dans les zones occupées par les groupes armés pour la mise en œuvre du programme PDDRCS. Ils l'ont dit vendredi au terme d'un atelier de réflexion de 2 jours sur les conditions politiques nécessaires à la redynamisation de ce programme pour la stabilité de l'Ituri. Steve Sengida, directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge de l'économie et finances, nous parle de cette approche pour l'effectivité du PDDRCS. Il est avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur Steve Sengida, bonjour. Que peut-on retenir justement de ces 2 jours d'assises que vous venez de passer avec les chefs coutumiers, acteurs sociaux, politiques de l'Ituri sur la redynamisation du PDDRCS?
Merci beaucoup pour la question. Il vous souviendra que la province de l'Ituri fait face à l'activisme des groupes armés depuis plusieurs années, lequel activisme a jeté dans la rue des millions de nos compatriotes citoyens qui sont dans les sites déplacés avec des conséquences humanitaires incalculables. Il se fait que dans la durée, nous avons connu des périodes d'accalmie, mais aussi des périodes d'intense violence où la province a été très agitée. Mais il se fait que depuis un certain temps, avec les efforts du gouvernement provincial sous état de siège, le gouvernement a opté pour une approche non militaire pour pouvoir contenir l'activisme des groupes armés, laquelle approche a connu également des avancées, mais aussi des points de faiblesse. Mais il se fait qu'aujourd'hui, nous pouvons quand même dire à l'unanimité, donnant la voie à la mise en œuvre effective du PDDRCS en province.
Quel crédit actuellement accordé à cette énième approche, démarche que vous venez encore d'initier? Pourtant, à ce stade, la population attendait déjà le fruit de ces programmes.
Il vous souviendrait que le PDDRCS, depuis le 2021, a connu beaucoup de péripéties qui ont même découragé les groupes armés à pouvoir se rendre, à ce sens qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Et cela, c'était du fait qu'un certain nombre de préalables posaient problème, notamment la garantie de l'après-désarmement en faveur des groupes armés. Qu'est-ce qu'ils avaient en déposant les armes? Aujourd'hui, nous venons d'élaborer avec la coordination nationale du PDDRCS un plan conjoint de désarmement et démobilisation qui intègre l'appui des partenaires. En face de cette grande dynamique, de ces avancées, la MONUSCO n'a pas voulu rester à la traîne. Elle a réfléchi dans le sens à pouvoir rajouter sur l'engagement du gouvernement, du chef de l'État, de l'armée et de tous les autres acteurs étatiques, l'engagement des acteurs politiques pour essayer de déblayer le chemin, de lever les obstacles à la bonne mise en œuvre du PDDRCS en province. Voilà ce qui justifie la raison d'être de ces 2 jours de travaux où des acteurs politiques de plusieurs secteurs ont réfléchi sur la nécessité de pouvoir mettre en place des conditions favorables, des conditions politiques bien sûr. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que le gouvernement puisse mettre le moyen avec les partenaires, mais que le PDDRCS trouve un obstacle ici des acteurs politiques locaux qui ne participent pas dans la bonne mise en œuvre et risquent de retarder cet élan que nous voulons voir avancer de tous nos voeux en faveur de la stabilisation et du relèvement de nos communautés.
Pourquoi pour ces programmes, on continue toujours à tournoyer, à spéculer dernier sur les objectifs. Quelles sont, selon vous, les raisons qui justifient ces spéculations encore?
Le PDDRCS a élaboré son plan stratégique qui devait être accompagné d'un appui financier technique pour qu'il se déploie. Vous vous souviendrez qu'il y a plus de 160 ex-combattants qui sont dans les sites de Diango depuis une année, qui doivent survivre. Faute de moyens, ils n'ont pas si passé à l'étape suivante. Après le désarmement, la démobilisation, ils devaient être pris en charge pour une réintégration et une réinsertion communautaire. Ce qui n'était pas le cas parce que le moyen font défaut. Mais aujourd'hui, avec l'engagement des partenaires, le PDDRCS est prêt à recevoir des combattants à désarmement et démobilisation, mais aussi à les référer auprès de partenaires pour une prise en charge au sein de la communauté, ce qui constitue la grande garantie qui stimule les combattants à pouvoir désarmer, sachant qu'il y a un lendemain qui leur est réservé par le programme.
Oui, le moyen pose encore problème. Partant des recommandations soulevées ici, ne pensez-vous pas que cela peut avoir encore un impact sur le plan qui est d'ailleurs préalablement bien conçu?
Très bien. Il se fait que pendant les travaux d'élaboration du plan conjoint, nous avons tenu compte de tous ces paramètres. Il se fait que les acteurs politiques n'étaient pas beaucoup associés parce que c'était les acteurs impliqués dans les PDDRCS. Aujourd'hui, nous avons besoin de redéploiement des forces de défense et de sécurité pour permettre aux PDDRCS de se déployer. On a besoin de ces pouvoirs coercitifs, contraignants contre les groupes armés pour qu'ils sachent qu'il leur est offert une opportunité, une occasion de pouvoir déposer les armes et qu'après cette occasion, ils n'auront pas cette même opportunité. Ils auront affaire à la puissance publique.
Steve Senguida, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Voilà, c'était là le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de l'Ituri. Il répondait aux questions de Ezekiel Mousalia. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.